Vous avez peut-être suivi dans l'actualité de ces derniers jours ces événements assez dramatiques, cette situation de ces personnes réfugiées qui fuient leur pays sur des embarcations de fortune dans l'espoir d'atteindre l'autre rive. Et voilà, on se demande pourquoi ces situations sont là. Peut-être l'espoir d'une vie meilleure pour eux et pour leur famille dans un autre pays. Peut-être l'idéal, mais qui est souvent faux, d'une vie plus facile ailleurs. Peut-être aussi les arguments de certains hommes qu'on appelle des passeurs et qui, moyennant une certaine somme d'argent, promettent un Eldorado, une vie dorée, à la place d'une vie de misère. Ces passeurs, puisqu'on a parlé du jugement ce matin, recevront leur vrai salaire de la part de Dieu pour leurs crimes. Ils ressemblent à ces pères dans la Bible qui donnent un serpent à leurs enfants quand ils demandent un poisson. Car beaucoup de ceux qui pensent s'embarquer pour une vie plus facile posent le pied dans leur tombe. Et les passeurs le savent. Je vous invite à trouver dans votre Bible le texte auquel je viens de faire allusion. Ces pères qui seraient capables de donner un serpent à leurs enfants qui demandent un poisson. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11. Évangile selon Luc, chapitre 11. Je commence au verset 1, comme un rappel de ce que nous avons médité ensemble il y a 15 jours. Luc 11, à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut terminé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. » Et ne nous conduit pas dans la tentation. Nous avions lu et médité ces quelques versets il y a deux dimanches pour introduire le thème qui va nous occuper tout au long de cette année et qui reprend cette demande des disciples de Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. C'est cette demande que nous voulons nous approprier cette année pour progresser dans notre relation avec Dieu, pour progresser dans notre vie de prière à l'exemple de Jésus. Au début du verset 5, qui est la suite que nous allons lire ce matin, Luc dit, il, c'est-à-dire Jésus leur dit encore. Ce qui veut dire que l'enseignement de Jésus sur la prière n'est pas terminé au verset 4. Il continue à partir du verset 5. Lorsque vous achetez un DVD ou un Blu-ray, en général, vous achetez le DVD pour regarder le film. Vous pouvez l'acheter aussi pour regarder les bonus. Mais en général, vous l'achetez d'abord pour regarder le film. Eh bien, les versets que nous allons lire ce matin, à partir du verset 5 et jusqu'au verset 13, ce ne sont pas les bonus. Cela fait partie du film. Cela fait partie de l'enseignement principal de Jésus sur la prière. Et donc, je vous invite à lire ensemble ce texte. Luc 11, verset 5. Il leur dit encore, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond, Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? J'aimerais en introduction faire quelques remarques sur le texte. Vous avez peut-être remarqué qu'on a là deux histoires ou deux illustrations que Jésus utilise. Et entre ces deux illustrations, il y a les versets 9 et 10 qui constituent en quelque sorte le cœur de l'enseignement de Jésus sur la prière dans ce passage. C'est le verset où Jésus dit, verset 9, « Et moi je vous dis ». Et là, c'est une formule qui montre que Jésus fait un commentaire, donne un enseignement avec une formule générale. Regardons rapidement quelques points communs entre les deux histoires, entre les deux illustrations que Jésus utilise. D'abord, il y a dans ces deux histoires quelqu'un qui est dans une situation de besoin. Il y a dans la première histoire cet ami qui débarque de nuit parce qu'il a besoin de pain. Et puis, dans la deuxième illustration, il y a l'enfant qui vient voir son père pour lui demander à manger. Un autre point commun entre ces deux situations, c'est que la personne qui est en besoin exprime une demande en lien avec ce besoin. L'ami vient chercher des pains parce qu'il reçoit un voyageur et il n'a pas de quoi lui offrir à manger. Et puis dans la deuxième illustration, l'enfant vient demander du pain, du poisson, de l'œuf, des choses qui sont nécessaires pour la nourriture. Pas des bonbons, vous avez remarqué, du pain, des poissons, de l'œuf, les choses qu'on trouvait au quotidien dans la vie du juif du 1er siècle. Notez d'ailleurs l'apparition du mot pain, qu'on ne retrouve pas dans toutes les traductions, mais qui apparaît plusieurs fois dans ce chapitre 11 de Luc. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Encore un point commun. Il y a deux personnages qui demandent, et puis il y a deux personnages qui ont la possibilité de répondre à ces demandes. Il y a dans la première histoire l'ami, que je mets entre guillemets, qui a des réserves de nourriture et qui pourrait aider celui qui vient le voir de nuit. Et puis dans la deuxième illustration, il y a le père de l'enfant qui peut donner à l'enfant de quoi manger. Et notez que c'est sur ces deux personnages que porte l'accent du texte. Ce sont eux les personnages principaux dans ces deux illustrations. Dans la première histoire, c'est celui qu'on vient déranger de nuit et qui a la possibilité de donner. Et dans la deuxième, c'est le père qui peut donner à manger à son fils. Regardez, au verset 5, Jésus dit « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui de nuit ?» Et dans la deuxième illustration, « Quel père parmi vous ?» Verset 11. En faisant cela, en racontant l'histoire de cette manière, Jésus fait que ses auditeurs vont s'identifier à ces personnages-là. À l'ami caractériel, dans la première histoire, et puis au père, dans la deuxième histoire. Et puis, dernier point commun, à la fin de chaque histoire, Jésus fait un commentaire. Dans la première histoire, verset 8, « Je vous le dis, Même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera quand même. Et puis dans la deuxième illustration, au verset 13, « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, etc. » Donc on voit bien que ces deux histoires se renvoient la balle l'une à l'autre. Il y a plusieurs points communs entre ces deux illustrations, ce qui nous permet de dire qu'il faut les lire et les comprendre ensemble. Et il y a entre ces deux histoires deux versets qui semblent être le cœur là de l'enseignement de Jésus. Mais moi je vous dis, c'est le point principal de ce passage. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde dans un premier temps, un peu plus en détail, la première histoire, puis la deuxième, et enfin le cœur de l'enseignement de Jésus sur la prière dans ce passage. Reprenons au verset 5. Il leur dit encore, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Donc, vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure, Jésus raconte l'histoire du point de vue de celui chez qui on vient tambouriner à la porte la nuit. Il y a trois personnages dans cette histoire. Donc, le personnage principal qui dort tranquillement chez lui, en tout cas qui dit qu'il est déjà couché. Il y a celui qui vient la nuit pour lui demander les pains, parce que, troisième personnage, un voyageur est arrivé, semble-t-il, à l'improviste, et il n'a pas de quoi lui donner à manger. Comme souvent, quand Jésus raconte une histoire ou une parabole, il y a un problème. Quel est le problème ? C'est que celui qui reçoit son ami voyageur est pris au dépourvu, non pas comme dans la bise fut venue, mais il est pris au dépourvu, il n'a pas de quoi lui offrir à manger. Or, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de ne pas offrir à manger aux voyageurs qui arrivent comme ça de nuit. Dans la culture juive du 1er siècle, mais encore aujourd'hui dans de nombreuses cultures, l'hospitalité, l'accueil de l'étranger ou du voyageur ou de l'ami ou de quelqu'un de la famille, c'est un principe fondamental. On ne dit pas aux voyageurs « Je suis content de te voir, tu vas dormir dans la cage d'escalier. » Ce n'est pas possible. On lui prépare à manger, on lui montre qu'on est honoré de sa présence en l'honorant avec un repas et on l'accueille comme il se doit, au nom de ce principe de l'hospitalité. Il y a donc un problème et il y a une solution possible. C'est de courir chez un autre ami pour lui demander de pourvoir aux besoins de l'hospitalité du voyageur. Et c'est ce que fait cet homme. Il va frapper à la porte d'un autre de ses amis pour lui dire « Ami, prête-moi, c'est même pas donne-moi, mais prête-moi trois pains. Voilà. » Et là, stupeur chez les auditeurs de Jésus, parce que l'attitude de cet homme, qui est le personnage principal dans l'histoire, son attitude est inconcevable. « Cesse de m'importuner !» Le verbe est à l'impératif. On pourrait traduire « fiche-moi la paix !» voire « dégage !» Ça ne se fait pas. Cette attitude bafoue toutes les règles de l'hospitalité. Et les deux personnages, celui qui vient frapper à la porte et celui qui refuse de le servir, ces deux personnages risquent de perdre la face vis-à-vis du voisinage, vis-à-vis de la famille. Ça ne se fait pas. Et donc, au verset 8, Jésus donne la conclusion de cette histoire. « Je vous le dis, » là c'est Jésus qui parle, « Je vous le dis, » même s'il ne se lève pas pour les lui donner, donc celui qui est dans sa maison, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. On peut comprendre ce verset de deux manières. En fonction de la façon dont on comprend la formule « à cause de son importunité ». De qui s'agit-il ? Qui est importuné ? Si on pense que son importunité, c'est celle de celui qui vient frapper à la porte, alors on dira que c'est parce qu'il en a marre d'être dérangé la nuit que celui qui est dans la maison va finalement se lever et donner à l'autre tout ce dont il a besoin. D'ailleurs, pas seulement forcément les trois pains qui sont demandés, mais tout ce dont il a besoin. Pour faire cesser ce vacarme, il consent à aider son prochain, mais par résignation, ou éventuellement sous le coup de la colère. Si par contre on pense que son importunité, c'est celle du personnage principal, donc celui qui est dans la maison, on se dit alors, il n'a pas envie d'aider son ami, mais il le fera quand même par devoir, à cause du principe de l'hospitalité. Ce principe est tellement fort qu'il l'emporte finalement, même si la motivation qui devrait être la bonne, la motivation amicale, c'est parce que c'est son ami qu'il devrait se lever pour lui donner des pains. Eh bien, au nom du principe de l'hospitalité, il va quand même se lever pour lui donner des pains. Quelle que soit la façon dont on comprend le verset, ce qui est clair, c'est que dans les deux cas, il y a un manque flagrant de considération, il y a un manque flagrant d'amitié pour celui qui est dans le besoin. L'attitude de cet homme est choquante. Que ce soit par dépit ou que ce soit par devoir, si c'est ça l'amitié, merci bien. Et nous ? Notre attitude ne rejoint-elle pas parfois celle de cet homme en quelque sorte barricadé chez lui et dérangé par les besoins des autres? N'avons-nous pas déjà assez de nos problèmes qu'il faille encore faire quelque chose pour les autres? Ce qui nous amène à la question, comment accueillons-nous? Comment accueillons-nous dans nos maisons? Mais aussi, comment accueillons-nous dans notre cœur? Peut-être avons-nous appris à revêtir des masques. Il y a dans la bande dessinée Crise de foi, foi F-O-I, une image où on voit un couple qui porte un masque avec un grand sourire et puis ils sont en train de rentrer du culte et la femme dit à son mari: ça y est chérie, on est arrivé à la maison, tu peux enlever ton masque. Et peut-être nous avons aussi parfois, nous, ce genre de masque, un grand sourire extérieur, et puis lorsque nous revenons à la maison ou lorsque l'autre n'est plus en face de nous, eh bien nous enlevons ce masque. Et ce qu'il y a en dessous de ce masque ne correspond pas forcément à l'apparence. Notre masque peut sourire en apparence, mais notre cœur ne s'associe pas à l'image que nous présentons de nous-mêmes à l'extérieur. Et au fond de nous-mêmes, nous pouvons refuser la relation avec les autres, soit par méchanceté, soit par sens du devoir. Mais à ce moment-là, c'est un sens du devoir qui est froid, c'est une pure convention sociale. On sait qu'il faut le faire, mais on ne le fait pas de gaieté de cœur. Et en réfléchissant à l'attitude de ce personnage, je me suis dit, est-ce ainsi que Dieu nous accueille? Nous qui sommes pécheurs, est-ce par devoir ou par lassitude parce que Dieu en a un peu assez d'entendre nos longues prières? Est-ce pour ces raisons-là que Dieu répond aux prières. Et je vous propose de garder ces questions en tête, alors que nous allons maintenant regarder la deuxième illustration. Je la relis au verset 11. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Cette partie du verset n'apparaît pas dans toutes les traductions, peut-être vous ne l'avez pas. Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui les lui demandent? Parmi les auditeurs de Jésus, il y avait apparemment des pères de famille. Verset 11, le début, « Quel père parmi vous ?» Jésus s'adresse à ses disciples, et donc il y avait peut-être dans les 12 certains qui étaient mariés et qui avaient des enfants. Peut-être il y a des gens de la foule qui sont là aussi et qui entendent le message de Jésus, et il y a dans la foule des pères de famille. Il y avait aussi sûrement des veuves, des mères qui élevaient seules leurs enfants, ou encore des célibataires. Et la parole du Christ est pour chacun de nous ce matin. Écoutons ce que dit Jésus. Jésus pose une question. Et là encore, il pose la question du point de vue du personnage principal qui est le père de famille. Un père qui a un fils, et ce fils vient lui demander à manger. Ce fils a besoin de manger. Et Jésus propose une sorte de réflexion par l'absurde. Quel père digne de ce nom donnerait un serpent à son fils quand il lui demande un poisson? Vous voyez que la question ainsi formulée appelle évidemment la réponse « Non, personne, aucun père ne donnerait un serpent à son fils s'il lui demande un poisson. » C'est inconcevable, c'est pas possible. Une petite parenthèse, mais qui est intéressante, le serpent et le scorpion apparaissent quelques versets avant, dans le chapitre 10 de Luc. Je vous invite à tourner une page et lire juste ces quelques versets. Luc 10, versets 17 à 20. Jésus a envoyé en mission ses disciples, alors non seulement les 12, mais un groupe plus large de 70 personnes, et les disciples reviennent de leur mission. Ils sont tout contents et ils viennent raconter à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Luc 10, à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie et dirent « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Le serpent et le scorpion représentent ici, comme dans le texte qui nous intéresse ce matin au chapitre 11, représentent de mauvaises choses, voire là où règne le mal. Et Luc semble utiliser une nouvelle fois cette image de ces animaux dangereux, voire mortels, scorpions, serpents. Si vous avez la malchance de tomber sur un de ces animaux qui est mortel, une piqûre suffit, une morsure suffit. Et Luc utilise l'image de ces animaux pour montrer un contraste entre l'attitude des pères humains et l'attitude du Père Céleste. C'est ce que l'on voit dans la conclusion que Jésus donne de cette deuxième illustration. Verset 13, je reviens au chapitre 11, verset 13. « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. » Si un père humain, tout mauvais qu'il est, Et Dieu sait que parfois nous sommes tentés de donner des serpents à nos enfants. Si un père humain peut quand même donner de bonnes choses à ses enfants, a fortiori, à combien plus forte raison, le Père Céleste, qui est bon, donnera de bonnes choses à ses enfants. Voyez le raisonnement de Jésus ? Dit autrement, Dieu n'est pas tenté par le mal. Sa volonté est parfaitement bonne. Ce que Dieu veut nous donner est parfaitement bon. Celui qui suggère le contraire, c'est un serpent, effectivement. Celui de Genèse, chapitre 3, que l'on retrouve jusque dans Apocalypse, chapitre 12. C'est le diable. Mais Dieu n'est pas le diable, et Dieu n'est pas comme nous. Dieu est totalement bon. Nous pouvons donc lui faire totalement confiance. On pourrait se demander, quel est le bien que Dieu veut pour ses enfants? Qu'est-ce que Dieu veut donner de bon à ses enfants? Et le verset 13 répond à cette question, en parlant du Saint-Esprit. Et dans l'Évangile selon Luc, et on trouve cela aussi dans le livre des Actes, le don par excellence que Dieu veut donner à ses enfants, c'est l'Esprit Saint. C'est son Esprit pour qu'il vive en nous, afin que nous marchions avec lui, afin que nous soyons sanctifiés, purifiés, que nous progressions pour faire le bien et renoncer au mal. Cet Esprit Saint, dans le récit, vient à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Et le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu, sa marque d'appartenance. C'est celui qui dit et qui rappelle à nos cœurs, lorsque nous sommes découragés, « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, je t'aime, tu m'appartiens. » Voilà l'assurance qu'a le chrétien, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous appartenons au Seigneur. Deux histoires, deux illustrations, avec deux petits versets au milieu. Verset 9 et verset 10. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Je disais tout à l'heure que la formule qui introduit le verset « Et moi je vous dis » montre que Jésus donne là son enseignement sur la prière. Et les deux versets, vous l'avez peut-être déjà remarqué, sont parallèles. On retrouve à peu près les mêmes mots dans les deux versets. Par exemple, les trois verbes « demander »,« chercher », »,« frapper », on les voit au verset 9, et puis au verset 10, « demander », chercher, frapper. Le verset 9 dit « Quiconque demande ». Ce qui va dans le sens d'une leçon générale ou d'un enseignement que là Jésus donne. Et lorsque, je disais tout à l'heure, quand Jésus racontait ces deux petites histoires, les gens devaient être choqués parce que ces situations sont inimaginables. Quelqu'un qui bafoue à ce point les règles de l'hospitalité, et puis quelqu'un qui serait prêt, un père qui serait prêt à donner un serpent à son fils, non, ce n'était pas possible. Et bien lorsque nous lisons les versets 9 et 10, c'est nous, les lecteurs, qui sommes surpris. Pourquoi ? Parce que dans ces versets, contrairement aux deux histoires, Jésus se place du côté de celui qui demande, et pas de celui qui a la possibilité de donner quelque chose. Vous avez remarqué ? Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Jésus met cette fois-ci ses auditeurs dans la peau de personnages qui demandent. Demandez et vous recevrez. Littéralement, il vous sera donné. C'est-à-dire que cela vient du Père Céleste. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez à la porte de votre ami, et il vous donnera tout ce dont vous avez besoin, sans rechigner. Demandez du poisson, et vous recevrez du poisson, pas du poison. Vous avez vu dans ces versets qu'il est souvent question de besoin, de nourriture. Voilà là aussi une clé de lecture et de compréhension de ce passage. Jésus ne dit pas « demandez et vous recevrez tout ce que vous désirez », mais « tout ce dont vous avez besoin ». Et la grande tentation, les amis, la grande tentation, c'est de prendre ces versets 9 et 10 et puis de les sortir de leur contexte et de dire « oui, je demande et je vais recevoir ». Le Père Céleste n'est pas le Père Noël. Dieu n'est pas un distributeur de cadeaux ou de billets de banque. La prière n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour satisfaire ses désirs d'enfant ou ceux du monde qui nous entoure. Prier, c'est chercher et trouver la volonté de Dieu. Prier, c'est chercher et trouver la volonté de Dieu, et non la nôtre. Qu'est-ce qui, dans le texte, nous permet d'affirmer cela? Je vais terminer cette prédication par là. Remarquez que la nourriture revient souvent dans ce passage. J'y ai déjà fait allusion. Trouver de quoi manger, c'est un besoin, et un besoin de tous les jours. Et Luc nous a déjà parlé de ce besoin de nourriture tous les jours. Je l'ai relu en introduction, verset 3. « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Ce besoin qui est exprimé ici fait partie de la prière telle que Jésus l'enseigne. Cette demande de nourriture pour vivre, elle est juste, elle est légitime. Demandons à Dieu notre pain quotidien. Mais cette demande arrive en second par rapport à une autre demande qui est plus importante, plus vitale encore. Et cette demande, elle est au verset 2. Quand vous priez, dit Jésus, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. » Nous en avons déjà parlé il y a 15 jours quand nous avons lu ce passage. C'est le royaume de Dieu, le règne de Dieu, sa volonté qui motive ou qui devrait motiver notre vie de prière. Demandez et vous recevrez les bénédictions du roi. Ce qui veut dire que c'est le roi qui décide quelles bénédictions il donne et à qui. Et Luc nous dit que le don par excellence que Dieu veut offrir, ce n'est rien de moins que son Esprit. Cet Esprit Saint, nous le recevons une fois pour toutes lors de notre conversion, mais chaque jour et chaque jour, nous avons besoin, non pas de recevoir l'Esprit de Dieu pour la première fois, mais d'être renouvelés. Que cet esprit soit renouvelé en nous. Chaque jour, nous dépendons de notre Père Céleste. Chaque jour, nous avons besoin, parce que nous sommes faibles, de trouver en Dieu la force pour marcher. Alors, je lance, non pas moi, mais Jésus, dans ce passage, un appel à recevoir l'Esprit de Dieu qui frappe à la porte de nos cœurs. Si ce matin, vous êtes dans la situation suivante, vous entendez cette parole de Dieu, l'Esprit de Dieu frappe à la porte de votre cœur. Soyez sensible à cet appel Dites oui, ouvrez la porte. Laissez-le entrer dans vos vies pour la transformer, pour que vous puissiez appartenir à Dieu. Et si ce matin vous avez déjà fait cette expérience et que l'Esprit de Dieu habite en vous, que vous êtes chrétien, alors entendez l'appel de l'Esprit Saint qui frappe à la porte et qui vous dit « Ne m'oublie pas, j'ai encore du travail à faire dans ta vie. » On pourrait se demander « Mais si je suis chrétien, qu'est-ce que cela veut dire demander l'Esprit Saint ?» Puisque je l'ai déjà. Eh bien, pensons par exemple à ce que Paul dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22. L'Esprit de Dieu doit porter des fruits dans nos vies, doit porter du fruit même, un fruit avec plusieurs facettes, plusieurs aspects. Quel est ce fruit? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, ou aussi on pourrait dire être digne de confiance, la douceur, la maîtrise de soi. Paul dit, la loi n'est pas contre de telles choses. On pourrait dire, Dieu non plus. Voilà ce que c'est demander l'Esprit Saint. Ce n'est pas une vague expérience qu'on ne pourrait pas qualifier avec des mots, qu'on ne pourrait pas comprendre et qui serait au-dessus de notre intelligence. C'est l'œuvre de Dieu dans nos vies pour apprendre à aimer notre conjoint, nos enfants, afin de ne pas être comme ses pères, éventuellement tentés de donner des serpents et non des poissons. C'est apprendre à se réjouir et donc à se détacher un peu de notre culture française pessimiste, râleuse, de façon chronique. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se plaindre, mais voilà. Quand c'est un style de vie, ça pose question quand même. La paix, comment l'Esprit de Dieu travaille dans nos vies? Est-ce que nous demandons à Dieu que ton esprit me rende paisible, m'aide à être en paix avec mes voisins, avec mes enfants, avec mes collègues? Vous voyez, et on peut prendre chacun des aspects de ce fruit de l'Esprit. Et vous voyez que dans cette liste, il n'y a pas par exemple « donne-moi une bonne santé » ou bien « donne-moi la richesse matérielle ». La richesse matérielle ne fait pas partie du fruit de l'Esprit. Alors, Philippe a parlé tout à l'heure des récompenses qui nous attendent. Et il y aura des richesses. Mais être riche matériellement aujourd'hui n'est pas nécessairement un signe que Dieu nous bénit. Voilà le chemin de prière que Jésus nous invite à suivre. Demandez à Dieu son esprit, le don par excellence, afin de grandir en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te louons pour ta parole. Nous te louons pour Jésus qui a enseigné à ses disciples un chemin de prière. Et comme eux, nous voulons dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Que ce soit vrai pour aujourd'hui, pour cette semaine et tout au long de cette année, apprends-nous à prier. Nous avons besoin que tu nous viennes en aide et nous te demandons ton esprit. Que ton esprit habite en nous et que ton esprit produise en nous le fruit que tu attends. Seigneur, nous voulons demander et nous voulons recevoir de ta part les bénédictions que tu as prévues pour nous. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, donne-le-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Et nous ajoutons que ton règne vienne. Amen.
Amen.